Baldabiou était l'homme qui, 20 ans plus tôt, était arrivé dans le bourg, s'était dirigé droit sur le cabinet du maire, y était entré sans se faire annoncer, avait posé sur son bureau une écharpe en soie, couleur de crépuscule, et lui avait demandé « Savez-vous ce que c'est ?»«
Affaire de femme. »«
Erreur. Affaire d'homme. De l'argent. » Le maire le fit jeter dehors. Lui, il construisit une filature en bas, près de la rivière, un hangar pour l'élevage des vers à soie, accolé à la forêt, et une petite église consacrée à Sainte Agnès au croisement de la route pour Viviers. Il engagea une dizaine d'ouvriers, fit venir d'Italie une mystérieuse machine en bois, tout en engrenage et en roue, et ne dit plus rien pendant 7 mois. Puis il revint chez le maire et posa sur son bureau bien aligné 30 000 francs en grosses coupures. « Savez-vous ce que c'est ?»«
De l'argent. » ?»«
Erreur, c'est la preuve que vous êtes un con. » Et puis il reprit les billets, les glissa dans son portefeuille et fit mine de partir. Le maire l'arrêta. « Que diable devrais-je faire ?»«
Rien. » »«
Et vous serez le maire d'une petite ville riche. » 5 ans plus tard, la Ville-Dieu avait 7 filatures et était devenue l'un des principaux centres européens de sériciculture et de filage de la soie. Tout n'appartenait pas à Baldabiou. D'autres notables et propriétaires terriens locaux l'avaient suivi dans cette curieuse aventure industrielle. À chacun d'eux, Baldabiou avait dévoilé sans difficulté les secrets du métier. C'était bien plus amusant pour lui que faire de l'argent à l'appel, enseigner et avoir des secrets à raconter. Il était comme ça, cet homme. Baldabiou était aussi l'homme qui, 8 ans plus tôt, avait changé la vie d'Hervé Joncourt. C'était à l'époque où les premières épidémies commençaient à attaquer la production européenne de vers à soie. Sans se troubler, Baldabiou avait étudié la situation et était parvenu à la conclusion que le problème n'était pas à résoudre, mais à contourner. Il avait l'idée, il ne lui manquait que l'homme. Il sut l'avoir trouvé quand il vit Hervé Joncourt passer devant le café de Verdun, élégant dans son uniforme de sous-lieutenant d'infanterie et fier avec son allure de militaire en permission. Hervé Joncourt avait 24 ans alors. Baldabiou l'invita chez lui, étala sous ses yeux un atlas rempli de noms exotiques et lui dit
« Félicitations, tu as enfin trouvé un travail sérieux, mon garçon. »
Hervé Joncourt écouta toute une histoire qui parlait de vers à soie, d'œufs, de pyramides et de voyages en bateau, puis il dit « Je ne peux pas. »
« Pourquoi ?»«
Parce que dans 2 jours, ma permission est terminée, je dois rentrer à Paris. »«
Carrière militaire ?»«
Oui, c'est ce que mon père a décidé. »«
C'est pas un problème. »
Il prit Hervé Joncourt avec lui et l'emmena chez son père.
« Savez-vous qui c'est ?»«
Mon fils. »«
Regardez mieux !»
Le maire se laissa aller contre le dossier de son fauteuil de cuir et commença à transpirer.
« Mon fils, Hervé, qui dans 2 jours remontera à Paris où l'attend une brillante carrière dans notre armée, si Dieu et Sainte Agnès le veulent. »«
Exact, sauf que Dieu est occupé ailleurs et Sainte Agnès déteste les militaires. »
1 mois plus tard, Hervé Joncourt partit pour l'Égypte. Il voyagea sur un bateau qui s'appelait l'Adèle. Dans les cabines arrivait l'odeur des cuisines. Il y avait un Anglais qui disait s'être battu à Waterloo. Le soir du 3e jour, on vit des dauphins luire à l'horizon comme des vagues ivres. À la roulette, le 16 n'arrêtait pas de sortir. Il revint 2 mois plus tard, le 1er dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, avec des milliers d'œufs maintenus par de la ouate dans 2 grandes boîtes en bois. Il avait des tas de choses à raconter, mais ce que Baldabiou lui dit quand ils se retrouvèrent seuls, ce fut
« Parle-moi des dauphins. »
« Les dauphins ? »
« La fois où tu les as vus. »
C'était ça, Baldabiou. Personne ne savait quel âge il pouvait avoir.
« Pas toute la terre, » dit doucement Baldabiou, « pas toute, » en versant 2 doigts d'eau dans son verre d'anisette.
Nuit d'août, passé minuit. À cette heure-là, d'habitude, Verdun avait déjà fermé depuis longtemps. Les chaises étaient renversées, alignées sur les tables. Son comptoir, il l'avait nettoyé, et le reste aussi. Il n'y avait plus qu'à éteindre les lumières et à fermer. Mais Verdun attendait. Baldabiou était en train de parler. Assis en face de lui, Hervé Joncourt, une cigarette éteinte aux lèvres, écoutait, immobile. Comme 8 ans plus tôt, il laissait cet homme lui réécrire posément son destin. Sa voix lui arrivait faible et claire,
rythmée par les gorgées périodiques d'Anisette. Sans s'interrompre, pendant de longues minutes, la dernière chose qu'elle dit fut
« Il n'y a pas le choix. Si nous voulons survivre, il faut aller là-bas. »
Silence. Verdun, accoudé à son comptoir, leva les yeux vers les deux autres. Baldabiou tenta de trouver encore une gorgée d'anisette dans le fond de son verre. Hervé Joncourt posa sa cigarette sur le bord de la table avant de dire « Et il est où exactement, ce Japon ?» Baldabiou leva sa canne de jonc en l'air et la pointa par-delà les toits de Saint-Auguste.
« Par là, toujours tout droit, » dit-il, « jusqu'à la fin du monde. »
En ce temps-là, le Japon était effectivement à l'autre bout du monde. C'était une île faite d'îles et qui avait vécu pendant 200 ans complètement séparée du reste de l'humanité, refusant tout contact avec le continent et interdisant l'accès à tous les étrangers. La côte chinoise était à près de 200 milles, mais un décret impérial avait veillé à la rendre plus éloignée encore, empêchant sur toute l'île la construction de bateaux à plus d'un mât. Selon une logique à sa manière éclairée, la loi n'interdisait pas d'ailleurs de s'expatrier. Mais elle condamnait à mort ceux qui tentaient de revenir. Les commerçants chinois, hollandais et anglais avaient essayé maintes fois de rompre cet isolement absurde, mais ils n'étaient parvenus qu'à mettre en place un réseau de contrebande périlleux et fragile. Ils y avaient gagné peu d'argent, beaucoup d'ennuis et quelques légendes, bonnes à vendre dans les ports le soir. Là où ils avaient échoué, allaient réussir par la force des armes les Américains. En juillet 1853, le commodore Matthew C. Perry entra dans la rade de Yokohama à la tête d'une flotte moderne de bateaux à vapeur et remit aux Japonais un ultimatum qui souhaitait l'ouverture de l'île aux étrangers. Les Japonais n'avaient jamais vu jusque-là de navire capable de remonter la mer contre le vent. Lorsque 7 mois plus tard, Perry fut de retour pour recevoir la réponse à son ultimatum, le gouvernement militaire de l'île se plia à la signature d'un accord qui acceptait l'ouverture aux étrangers de 2 ports dans le nord du pays et l'établissement de quelques premières prudentes relations commerciales. « La mer autour de cette île, » déclara le commodore avec une certaine solennité, « est désormais beaucoup moins profonde. » Baldabiou connaissait toutes ces histoires. Surtout, il connaissait une légende qui revenait très souvent dans les récits de ceux qui y étaient allés, là-bas. Il disait que dans cette île, on produisait la plus belle soie du monde. Et cela depuis plus de 1000 ans, selon des rites et des secrets qui avaient atteint une exactitude mystique. Baldabiou, lui, pensait que ce n'était pas une légende, mais la pure et simple vérité. Un jour, il avait tenu dans sa main un voile tissé avec un fil de soie japonais. C'était comme de ne rien tenir entre ses doigts. Aussi, quand tout parut s'en aller à volo à cause de cette histoire de pébrine et des œufs malades, il pensa ceci. Cette île est pleine de verre à soie, et une île où pendant 200 ans, aucun commerçant chinois et aucun assureur anglais n'est parvenu à entrer, est une île où aucune maladie n'entrera jamais. Il ne se contenta pas de le penser. Il le dit à tous les producteurs de soie de la Ville-Dieu, après les avoir convoqués dans le café de Verdun. Aucun d'eux n'avait jamais entendu parler du Japon. Nous devrions traverser le monde pour aller nous acheter des œufs tels que Dieu les voudrait dans un endroit où, quand on voit un étranger, on le pend ? Le pendait, précisa Baldabiou. Il ne savait qu'en penser. À l'esprit de l'un d'eux, une objection se présenta. « Mais il doit bien y avoir une raison pour que personne au monde n'ait eu l'idée d'aller acheter ses œufs là-bas. » Baldabiou aurait pu bluffer en rappelant que nulle part au monde il n'y avait un autre Baldabiou, mais il préféra dire les choses comme elles étaient. « Les Japonais se sont résignés à vendre leur soie, mais leurs œufs, non, ils les gardent pour eux. Et celui qui essaie d'en faire sortir de l'île commet un crime. » les producteurs de soie de la Ville-Dieu étaient à des degrés variables des gentlemen, jamais ils n'auraient songé à enfreindre une quelconque loi dans leur pays. L'hypothèse de le faire à l'autre bout du monde leur parut cependant raisonnablement sensée. On était en 1861, Flaubert finissait Salammbô. L'éclairage électrique n'était encore qu'une hypothèse et Abraham Lincoln, de l'autre côté de l'océan, livrait une guerre dont il ne verrait pas la fin. Les sériciculteurs de la Ville-Dieu se mirent en société et rassemblèrent la somme considérable nécessaire à l'expédition. Il parut à tous logique de la confier à Hervé Joncourt. Quand Baldabiou lui demanda s'il acceptait, il répondit par une question. « Et il est où exactement, ce Japon ?» Par là, toujours tout droit, jusqu'à la fin du monde. Il partit le 6 octobre, seul. Aux portes de la Ville-Dieu, il serra contre lui sa femme, Hélène, et lui dit simplement « Tu ne dois avoir peur de rien ». C'était une femme grande, aux gestes lents. Elle portait de longs cheveux noirs qu'elle ne rassemblait jamais sur sa tête. Elle avait une voix superbe.